Bonjour, quel bonheur de vous retrouver après une si longue absence et pardon d'être resté muet pendant cette période où nous sommes restés, comme vous probablement et comme les deux tiers de l'humanité, confinés, ramenés à notre espace intime, celui du foyer et du cercle proche, pendant que l'épidémie faisait de ses victimes et que le monde habituellement si frénétique tournait au ralenti. Nous voilà projetés, après cette étrange parenthèse, dans ce que les médias ne cessent d'appeler le monde d'après, formule aussi inutile que trompeuse, tant la plupart des décideurs économiques et politiques semblent obsédés aujourd'hui par l'idée de revenir au plus vite au monde d'avant. Et peu importe si l'affreux virus a été plus efficace dans la réduction des émissions de CO2 que toutes les conférences climat, peu importe si par miracle des centaines de milliards ont été tout simplement créés pour faire face à l'urgence sanitaire, oui, l'urgence sanitaire, mais que dire alors des autres urgences, innombrables et d'une ampleur incomparable, l'urgence climatique qui poussera bientôt des centaines de millions d'humains à quitter leur environnement devenu invivable, l'urgence face à la disparition massive des populations animales sauvages pour cause de pollution et de déforestation, l'urgence que nous impose la dégradation des sols, celle de l'air de nos villes, l'urgence à débarrasser nos océans des plastiques et des métaux lourds, et vous l'avez compris, la liste est encore longue, chacun est en mesure de l'adresser par lui-même. Une chose m'a frappé en particulier, lorsque nos gouvernants au plus fort de la pandémie justifiaient leur décision par cette formule magique, les scientifiques nous disent. Ainsi, nous aurions décidé enfin d'écouter les scientifiques. Pourquoi alors n'avoir pas ou si peu écouté les scientifiques du monde entier qui, dans leur immense majorité et depuis des décennies, nous disent, ou plutôt nous hurlent dans les oreilles, que notre mode de vie n'est pas soutenable, que l'homme impose une prédation à l'ensemble de la vie sur la planète, sciant en toute conscience la branche sur laquelle il est assis dans l'arbre de l'évolution. Cessons, je vous en supplie, de parler de monde d'après. Tentons plutôt ensemble de changer le monde d'aujourd'hui. Et je mesure, croyez-moi, tout le dérisoire de cette injonction formulée ici au micro d'un podcast consacré à l'amour du vin. Mais donnez-moi une tribune et je m'en saisis. C'est bien le moins que je puisse faire. Ce 65e épisode se nomme Bruno Queniou et les mystères du vin. Bienvenue dans la Terre à boire. Bonjour Bruno Queniou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est avec plaisir.
On est ravis de vous recevoir pour cette grande reprise, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en studio pour enregistrer. Pardon aux éditeurs à qui on a peut-être manqué, peut-être pas du tout. Ils ont eu d'autres podcasts nos fils à écouter entre-temps. En tout cas, nous, on est ravis de se retrouver autour de cette table. Je vous présente les personnes qui sont avec moi autour de la table. Florence Saragoni, d'abord. Bonjour.
Bonjour.
Florence, sommelière à La Truffière, dans le 5e arrondissement de Paris. Encore fermé, bientôt
fermé.
Ouvert. Voilà, mais ça va bientôt reprendre tout ça.
On se prépare.
Avec Marie, alias Mademoiselle Jaja. Bonjour Marie.
Hello.
Et avec Patrice Defay, notre passionné passionnant.
Bonsoir Marie, qui est partie visiblement en Angleterre très récemment.
Non, mais qui a donné un atelier de vin de Mademoiselle Jaja hier soir à des anglophones.
D'accord. Ceci explique cela.
On fera peut-être une version du podcast en anglais un de ces jours. Bruno Queniou, on est vraiment ravis de vous recevoir. La vie mystérieuse du vin, c'est le titre du livre qui est paru au Cherche Midi éditeur en fin 2019, je crois.
C'est ça.
C'est un livre dans lequel vous donnez un ensemble de considérations sur l'univers du vin, vraiment au sens large, dans le rapport que vous pouvez avoir au vin, dans la définition même de ce qu'est le vin, on va essayer d'en parler. Également dans la façon de déguster, dans les pratiques, dans le rapport du vigneron à son terroir, il y a une multitude de choses dans ce livre dont on va essayer de discuter. La première chose sur laquelle j'aimerais vous lancer, puis après mes petits camarades vont aussi poser plein de questions, c'est, vous dites quelque part dans le livre, je ne suis pas sûr d'avoir la formulation exacte, que connaître le vin, ça n'est pas connaître tous les vins. Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, quand je suis arrivé dans le métier, moi j'avais juste l'école de mes parents, vigneron, en plus mon père était un instinctif, il refusait l'école des œnologues, il refusait l'école du vin déjà bien pensant. Et j'ai travaillé avec lui parce que moi je refusais l'école et donc du coup le soir en rentrant de l'école j'avais jamais de devoir. Il me disait t'as pas de devoir, viens travailler avec moi, et donc j'étais dans le chai avec lui. Et en fait ça a été une grande école du vin pour moi, une grande école qui était chargée de symboles, en fait, de symbolisme, d'intuition, et qui n'était pas une école académique du tout, très très loin. Une école d'un noble buveur, quelqu'un qui aimait vraiment le vin, tout simplement. Et d'ailleurs, il n'aimait pas les dégustateurs. S'il en voyait un, il pouvait lui arracher le verre des mains parce qu'il détestait ça. Il aimait trop le vin pour qu'on le déguste, en fait. Et donc, quand moi, j'ai décidé tardivement, enfin, j'avais une vingtaine d'années, d'aller vers le vin, mais pas en tant que vigneron. J'ai voulu rentrer dans le monde du métier de caviste parce que j'ai rencontré un caviste à Lorient qui m'a inspiré, qui s'appelait Henri Liard, qui est décédé depuis, et qui était un homme qui aimait vraiment le vin. Et ça m'a beaucoup plu de voir cet homme dîner chez mes parents, parler de vin avec mon père, goûter, boire. Et quand je suis arrivé dans ce métier, je me suis lancé, mais j'y connaissais absolument rien par rapport à tout ce que j'entendais autour de moi. Il y avait un discours académique, il y avait des mots techniques, etc. Et moi, ça me parlait absolument pas. Et puis, je n'avais pas envie de parler avec ces mots-là. J'avais mon langage, et pas un langage à moi, parce que c'est un langage spontané qui venait au fur et à mesure que je goûtais un vin. Il y a un mot qui me vient, et puis voilà, point. Et j'ai vite compris que ces sommeliers et ces œnologues étaient enfermés dans un langage. Et bon, j'ai une histoire un peu particulière, parce qu'enfant, je percevais les sources d'eau, j'étais magnétiseur, sourcier. C'était pas une formation, parce que mes parents n'étaient pas. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du spontané est beaucoup plus vrai, si vous voulez, à l'intérieur de vous. Et la perception est illimitée. Hein, on le sait, même un radiesthésiste, il peut toujours aller plus loin dans sa perception si on est véritablement dans l'instant et dans l'écoute intérieure. Et alors que quand vous êtes bloqué par votre langage, vous allez diminuer votre perception. Donc, vous allez diminuer votre perception pour qu'elle se colle au langage. Le langage est limité. Alors que le langage intuitif, le langage immédiat, lui, il est illimité. Donc, pour revenir à la question que vous posez, je me suis retrouvé devant des gens qui voulaient connaître tous les vins du monde. Et moi, je ne m'intéressais pas du tout de connaître tous les vins du monde. Moi, j'avais des vins, je cherchais juste les vins qui me transcendaient, qui me donnaient une anstase, qui me donnaient une ivresse. Et ça a été ma première, c'était un Corton 76, je raconte dans le livre, où j'ai vécu un moment extraordinaire. Je me suis dit, mais je veux travailler dans le vin. Je veux revivre ça. C'est fabuleux, rien que dans une bouteille, de vivre un moment où j'étais moi. J'étais véritablement moi. Voilà. Et pour moi, c'est ça, la connaissance du vin. C'est apprendre à se connaître par le vin. Mais c'est pas de dire, je connais le décret d'appellation de telle appellation, etc. Ça m'intéresse pas. Mais je dis pas que c'est mal, attention, hein. Mais c'est ma vision.
Oui, après.
Oui, Patrice.
Si on prend, effectivement, je crois que c'est Einstein qui dit il n'y a que de la connaissance que par l'expérience, le reste n'est que de l'information.
C'est un peu ça.
Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement d'être dans l'expérience du vin immédiatement plutôt que dans l'accumulation, plutôt dans l'intuition que dans l'addition. On va dire ça comme ça.
Pour aller un tout petit peu plus loin, si vous voulez, quand vous êtes dans la quête de la connaissance du vin, c'est comme quand vous êtes dans la quête de la connaissance de l'humain. Vous cherchez pas à connaître les 6 milliards d'habitants qu'il y a sur la planète. Ça, c'est pas possible. Par contre, connaître l'humain, il suffit pas d'en connaître beaucoup, d'en rencontrer beaucoup. Et vous allez découvrir l'humain. Parce que si on peut pas connaître, on peut pas percevoir plus profond en l'autre que ce qu'on a perçu en soi-même. Et donc, se creuser soi-même, c'est creuser l'humanité. C'est pareil pour le vin. Plus vous êtes dans un creuset intérieur, plus vous allez découvrir l'essence du vin. Moi, ce que j'appelle le vin du vin. C'est-à-dire qu'il y a le vin, sa forme, son goût, sa matière, qu'on peut décrire. Mais le vin du vin, l'essence qui se meut à l'intérieur et qui va donner la vibration, ça c'est autre chose. Si vous voulez.
Est-ce que cela rejoint cette forme de vision globale? Ça m'évoque le passage où vous parlez du fait qu'on a tendance à décrire les vins à travers un archipel d'arômes, alors que, il me semble, dans les temps anciens, vous parlez du bouquet. On considérait le bouquet qui est une forme de qu'est-ce que ce vin exprime dans son ensemble. Sans vouloir décortiquer, il est tannique, il est acide, il est vif, il est soyeux.
C'est ça. C'est ça parce que les anciens buvaient avec leur corps. Moi, j'ai vu des anciens boire, et rien que les voir boire quand vous avez 12 ans, que vous voyez un homme boire avec son ventre, et vous le voyez dans une anstase en train de faire une mime incroyable. Il n'a pas de mots. Il est dans un état d'accueil, il est en recevoir pleinement. Et là, il lève les yeux au ciel et on a l'impression qu'il voit Dieu. Et ça, je crois que ces gens-là, si vous voulez, ils s'en foutaient pas mal des arômes, totalement, de savoir. Et en plus de ça, les arômes, si vous voulez, c'est une division. Toute la symbolique du vin est basée sur l'unité. Et donc, quand vous dites l'unité, c'est le symbole. La division, c'est diabole. Donc, quand vous divisez le vin pour le déguster, qu'est-ce qu'on est en train de faire? c'est diabolique. Vous faites atteindre le symbole, c'est un acte d'amour. C'est l'amour qui va transcender l'unité. Alors que quand vous divisez le vin en disant je vais décortiquer les tanins, les arômes, les acides, vous êtes dans quelque chose de diabolique, à mon avis. Donc on est très très loin du vin.
Oui, c'est l'analyse versus la rencontre, quoi.
C'est ça.
Pour revenir juste sur enstase, c'est l'extase intérieure, quoi. C'est l'inverse de l'extase considérée comme violente, mais
C'est ça.
C'est un terme qui revient à plusieurs reprises dans le livre, en effet. Je suis passé très vite sur votre parcours. Vous l'avez rappelé que vous êtes fils de vigneron. Vous êtes quand même caviste depuis 1983. D'abord au Cave Le Grand. Ensuite, vous avez officié aux Galeries Lafayette. Vous avez fondé et développé le rayon vin des Galeries Lafayette pendant 18 ans avant d'ouvrir votre propre cave, Philovino, rue d'Étienne d'Orve, Paris 9e.
C'est ça, place d'Étienne d'Orve, c'est ça.
Place d'Étienne d'Orve, pardon. Voilà, si je ne me trompe pas, vous avez écrit plusieurs livres avant celui-là. Il y a eu notamment, il y a un livre sur le renouveau des vins de Bordeaux, qu'on peut encore trouver.
J'ai participé à pas mal de choses aussi.
Et donné des conférences. Et je finis cette biographie en signalant que vous êtes chevalier des arts et des lettres et que, semble-t-il, comme c'était en plus avant la parution de ce livre, donc ce n'est pas une récompense littéraire, on a voulu vous récompenser à ce moment-là pour le, je vais faire un néologisme, pour votre cavisme. C'est cette profession-là de professionnel du vin qui est récompensée comme une discipline artistique. Alors je dis, ça nous touche particulièrement nous ici parce qu'on essaye de défendre cette idée que le vin c'est de la culture, au même titre que voilà, on pense plus facilement que la gastronomie c'est de la culture et quand on explique que le vin c'est profondément culturel, c'est un petit peu moins intégré. Mais là vous êtes la preuve vivante que et le premier décoré en tant que producteur de culture à travers un métier vraiment proprement du vin.
Oui, j'ai toujours considéré que le métier de caviste, et j'en parlais l'autre jour avec des jeunes cavistes qui actuellement utilisent beaucoup les labels, etc., les labels tendance, et je leur disais que demain, Carrefour, Auchan, Franprix, la grande distribution et puis les sites internet vont utiliser tous ces labels, il n'y aura pas de problème, on fera du nature, de ce qu'on veut. Le caviste, c'est le gardien. On représente que 5% du métier en vente de vin, sous la vente de vin. Mais par contre, on est le gardien d'une haute tradition. Moi, j'appelle ça la haute tradition. La haute tradition, c'est l'évolution lente. Je parle beaucoup d'évolution lente. Moi, je suis très lent. Le client qui vient chez un caviste, il vient pas chercher du bio, sinon il va chercher de la biocoop. Il va à une biocoop, etc. C'est pas du tout. Il y a pas d'échelle de valeur. Je critique pas les biocoop, mais si vous voulez, le caviste est là pour être amené quelque chose qui reste, si vous voulez, de la haute tradition. Et on transmet le terroir. Le terroir, on peut très vite le perdre avec des tendances. Très, très vite. Parce que là, on le voit aujourd'hui, par exemple, on en parlera tout à l'heure sur la transmission, mais les jeunes générations, ma génération de vignerons, ne souhaite pas que les enfants souffrent comme eux ont souffert vis-à-vis de leur père. Ils leur donnent les clés et ils les laissent faire. Et moi, je suis épaté. Et on voit des catastrophes arriver à une vitesse incroyable. Moi, mon frère, il a fallu qu'il joue des coudes avec mon père, hein, parce que mon père, c'était Jean Gabin. Voilà, donc il faut se payer quelqu'un comme ça. C'est long, c'est très long. Seulement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des vins justement parce que les vins qu'il fait, c'est vrai qu'il aurait tourné tout de suite très vite avec ses idées jeunes. Il ne ferait pas les vins qu'il fait, ça c'est sûr aujourd'hui. Et donc, parce que le terroir, ça se transmet, c'est un souffle qui se reçoit et qui s'accueille de génération en génération. Et ça, on ne tourne pas comme ça le bouton. Si vous voulez. Et donc, les tendances dans lesquelles on est aujourd'hui, on peut très vite perdre. En pensant qu'on est encore plus dans le terroir, on peut très vite s'en éloigner. Et c'est pour ça que les très très grands vignerons ne parlent pas de label. Ils n'en parlent pas, ils n'ont pas besoin. Ils sont bien au-dessus d'ailleurs.
On a des petites habitudes, voire des traditions. C'est pas de la haute tradition dans ce podcast.
C'est une bonne tradition.
C'est une bonne tradition. C'est de déguster des vins. Le premier qui est dans nos verres, c'est toi, Marie, qui l'a apporté. Qu'est-ce que c'est donc que ce joli vin blanc ?
Alors, au passage, je vais remercier à la fois le 38 Gourmet, qui est notre petit caviste pas trop loin d'ici et qui nous fournit pas mal de vins. Et puis Christophe de Lanvin, qui m'a fait découvrir ce vin et je le remercie beaucoup. Et je te rejoins, Bruno. Les cavistes sont des passeurs d'histoire ou des passeurs d'énergie, mais ils sont là pour exprimer tout ce que le client ne peut pas deviner et ce que aucun label ne pourra véhiculer. Et il n'y a que l'humain qui peut véhiculer, non pas le storytelling dont tout le monde parle en ce moment, mais ce que le vigneron a essayé de nous mettre dans le verre et donc un petit peu dans le corps et donc un petit peu dans l'âme. Et là, on a un... Donc, je révèle, je dis tout.
Bah oui, écoute, dis-nous qu'est-ce que...
Alors, j'ai choisi un vin qui me faisait penser à Bruno. Alors, bon, il n'y en a pas 36 parce que je te connais encore très peu. mais j'ai pensé salive parce que Bruno parle du champ des papilles, c'est-à-dire ces sortes de sous-papilles, tu me corrigeras si c'est mal exprimé, auxquelles on a accès lorsqu'on salive. Et pour saliver, rien de mieux qu'un vin salin. Donc, je suis allée chercher un peu ces nouvelles expressions du Roussillon. Pour certains, c'est une nouveauté. Et pour d'autres, ça devient un petit peu la nouvelle norme dans le Languedoc et dans le Roussillon de produire des vins blancs très salins, très appétants, très salivants. Celui-ci ne fait pas exception. Il y a un très joli terroir. On est sur des schistes.
On est dans quel coin, alors?
Alors, on est dans le Roussillon, à côté de Cals. On est vraiment
la schiste.
Voilà.
La
glis, on est voilà, donc Bruno sans pendule réussit à me dire qu'il y a des schistes et c'est tout à fait exact. Et ce sont des schistes orange, brun et beige si on veut vraiment aller dans le. Et après je vous en dirai un petit peu plus sur la façon dont le vin est traité, mais d'ores et déjà le sol est traité délicatement. Il a un cheval et il est plutôt dans la culture non interventionniste. Son but étant de conserver les micro-organismes et l'humus.
Le domaine, le vigneron.
Le domaine, c'est la Nouvelle Donne, Wilfried Valla. La cuvée, c'est la Nouvelle Vague en blanc. Je te donnerai les cépages tout à l'heure. Je veux juste faire une microseconde sur le pH. Je m'arrêterai là parce que sinon je vais barber tout le monde. Mais le pH des sols va de 4,5 à 9 sur ces terroirs. On ne peut pas avoir ça avec des traitements phytosanitaires. Et si on n'a pas ces pH-là, on n'aura pas accès à la même minéralité et au même passage du vivant.
C'est-à-dire qu'ils sont soit acides, soit basiques.
Là, on est... Voilà. Là, on monte...
C'est pour les neutres. Donc, voilà.
Mais c'est ça.
En général, on est un petit peu...
Qu'est-ce que ça nous dit des sols qui sont de 4 à 9?
Ça nous dit que la vie des micro-organismes, des vers de terre et de l'humus, qui est quand même le grand réseau de communication du vivant dans le végétal, est rendue possible.
Parce qu'il y a une grande variété dans l'acidité des sols?
Oui, il est très sur la biodiversité, donc évidemment peu de traitements, sauf de plantes, et ça te donne accès à une vie du sol qui, à son tour, transmet cette vie au raisin et qui transmet cette vie au vin et ensuite au dégustateur.
Juste pour bien comprendre cette histoire de pH, dans un sol qui serait abondamment traité, dans lequel il n'y a plus de vie, on en a déjà souvent parlé dans cette émission, on serait sur des pH...
Très très bas.
Très acide.
Très, 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 très acide, très, très pas beau. en termes non, techniques.
C'est important de le préciser.
Oui,
c'est compliqué. Il y aura plusieurs corrélations. Ce qui va se passer, c'est que si on a des humus qui fonctionnent bien, donc qui vont être très légers du coup, hein, donc on va avoir beaucoup de souplesse, ils vont être, donc l'humus, comme on dit, hein, humus, c'est humus, hein, c'est la terre, mais c'est aussi le lien, hein, tertiel, ça vient de humilité, hein, tout ça c'est le même mot, c'est homme aussi. Et donc, vous allez avoir une corrélation sur la structure organique de la matière du vin. Donc, plus vous allez avoir de légèreté, c'est ce qui s'est passé en Bourgogne quand ils ont recommencé à travailler les sols et à alléger les sols, on s'est retrouvé avec des vins qui étaient de plus en plus légers, hein, de moins en moins lourds, de moins en moins denses. Pourquoi ? Parce que les tanins, les membranes organiques, les membranes phénoliques, étaient beaucoup plus hydratées, tout fonctionnait mieux. L'eau du sol fonctionnait mieux, l'eau dans le vin fonctionnait mieux. Mais il y a un autre phénomène, c'est que plus vous allez avoir des pH, vos pH vont influer, vos pH du sol vont influer sur le pH du vin. Et plus les pH vont être bas dans le vin, plus le vin va, moins il aura besoin de guide pendant la vinification, hein, moins de contrôle de température, plus besoin de levure, et les levures vont travailler beaucoup plus lentement, donc on va avoir une extraction de fruits bien supérieure, on va avoir une minéralisation des fruits bien supérieure, mais ça, tout ça, ça va venir du travail du sol. On va avoir un écart de 1 point de pH sur le même sol, hein. Selon où vous êtes en conventionnel ou vous passez en bio, vous allez avoir jusqu'à 1 point de pH en 3 ou 4 ans. C'est énorme. Là, c'est un vin qui doit être aux alentours de 3,6, 3,7. Pour un vin du Sud en blanc, c'est pas beaucoup, hein, c'est bien.
Et alors, en aval de tout ça, ça nous permet, enfin, ça permet aux vignerons d'utiliser 27 mg par litre de soufre ajouté, qui en plus est un soufre volcanique et pas un substitut chimique. Et juste pour rappel, un vin conventionnel, on a droit jusqu'à 200 mg par litre. Donc là, on est divisé par 10, et c'est rendu possible, encore une fois, par le pH, puisque ça protège le vin. D'une certaine manière, c'est la grande théorie étant qu'on a tous besoin de sulfites, sinon on va mourir tout de suite ou pourrir sur place.
Ouais, il y en a quand même là, des sulfites.
27 mg par litre. Ce qu'un vigneron nature dirait, tu vois, il froncerait le sourcil là, 27, je pense.
Ouh, ça dépend. Il y en a beaucoup qui en mettent beaucoup plus.
Ils
se disent nature, mais juste une chose, il n'y a pas un cépage rouge là-dedans?
Ah là là, il est fort. Mais comment? Alors, il faut que tu m'expliques comment tu sais ça, parce que là, je suis.
On vous écoute. Parce que là, en fait, je fais une toute petite parenthèse, mais ça me frappe. On a commencé une discussion sur les niveaux de pH, à échanger des chiffres.
C'est un pardon, excusez-moi.
Il doit être au niveau 3,6, 3,7. Non, c'est pas ça. Mais c'est frappant parce que ça me paraît être pratiquement en contradiction. Enfin, contradiction, mais c'est très différent
bien
de
sûr.
L'état d'esprit dans lequel on est baigné dans ce livre, où
bien
on
sûr,
est dans
sûr.
L'unité et dans l'invisible. Vous évoquez souvent.
Mais vous avez totalement raison. Ce que je viens de faire là, c'est la conséquence d'une non-recherche. C'est la conséquence d'une non-recherche mentale. C'est-à-dire que pourquoi on peut dire les pH? Il y a très peu de gens qui peuvent vous dire le pH d'un vin. Je suis habitué, parce que
vous êtes le premier à nous le faire. 65 émissions.
Les vignerons, par exemple, il y a 2 ans, Emmanuel Giboulot, en Bourgogne, je lui dis, sur cette cuvée-là, cette année, tu as gagné 0,3 points de pH. Il me dit, regarde, comment tu sais ça? Voilà. Donc ça, c'est de l'ordre de la perception. Ce n'est pas l'ordre de la dégustation. Hein, donc, au contraire, en fait, ce que je viens de dire vient directement du non-apprentissage de la dégustation. C'est vraiment important de savoir qu'on a des perceptions qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont infinies. Hein. Et comme je dis dans le livre, à un moment donné, je paraphrase Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et moi, je dis, on ne goûte bien qu'avec le cœur, la lumière est invisible pour les papilles, est impalpable pour les papilles. Donc, la lumière d'un vin, ce qui donne, si vous voulez, la brillance à la saveur, c'est sa source. C'est sa source, et cette lumière va jaillir au moment où le feu et l'eau vont s'unir dans le chaos fermentaire. Et c'est pour ça que l'œnologie moderne a réduit la fermentation à un phénomène de sucre et d'alcool, ce qui est une véritable catastrophe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein de vins qui sont des jus de raisin fermentés. Mais ce ne sont pas du vin, en aucun cas. Hein? Ça peut être bon, mais ce n'est pas du vin. Hein? C'est autre chose.
Vous dites d'ailleurs que le vin est un des seuls produits, sinon le seul, à avoir déjà été digéré
selon un
véritable processus de digestion, la fermentation,
voilà.
L'élevage,
le vieillissement. Ce sont des processus de digestion. Et c'est pour ça que les anciens donnaient ce mot-là, parce qu'ils considéraient que le vin était passé par des formes de mort. Hein. C'est un triptyque de mort. Hein. L'homme va piétiner son raisin. À l'arrivée, cette œuvre agricole la plus complexe à réaliser, il va la mettre dans la cuve, cave, caveau, tombeau, lieu de mort et de résurrection. Il va le fouler au pied et il va amener le quatrième élément, l'air. Il manque le quatrième élément pour faire une fusion alchimique. Donc, il va amener le solvant, l'air. Dans la Bible, le solvant existe aussi. Et ce solvant va permettre la décomposition, pas une putréfaction, une décomposition, à l'origine, ça ne vient pas de putréfaction. Donc, c'est séparation décomposée qui, dans ce chaos organique, va commencer un autre chaos qui va être un chaos moléculaire, particulaire et un véritable chaos supramagnétique. Et donc, c'est pour ça que quand on rentre dans une cuve avec des raisins sains et qu'on va fouler le raisin, tous les jours, tout doucement, si on fait la même cuve, tout doucement, on va commencer à sentir des choses incroyables. Et là, j'en vois des jeunes chez des vignerons qui font ça. Et quand ils reviennent de stage, ils sont un peu bouleversés parce qu'ils ont vécu quelque chose de particulier qui se passait dans la cuve et au travers d'eux. C'est pas rien.
C'est de l'ordre de l'expérience mystique, on est d'accord?
On est en pleine expérience mystique, bien sûr.
Alors, moi aussi, je suis en pleine expérience mystique.
Oui, Marie.
Parce que le cépage principal, c'est macabeux sur schiste. Donc, on sait pourquoi c'est salin et on s'attend un petit peu à se toucher tactile.
Donc, le cépage, c'est macabeux.
Macabeux, cépage principal.
Cépage macabeux sur schiste n'existant pas aujourd'hui.
C'est un cépage macabeux, voilà. Sur sol schisteux.
Oui, j'ai compris.
Et ça te permet d'avoir une expression. Je ne peux pas sortir de ma...
Et le cépage rouge, alors qu'a deviné Bruno Quenu.
Ça te permet d'avoir ce toucher de bouche anguleux qui est attendu quand on t'annonce ça. Par contre, comment Bruno savait qu'il y avait un cépage rouge vinifié en blanc de noir? Il faut que je sache ça.
En fait, les rouges... La connaissance symbolique du vin blanc et du vin rouge est importante. Tout à l'heure, je disais, il faut jouer à la marelle pour comprendre le vin rouge et le vin blanc, ce vieux jeu mais moyenâgeux. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on monte au ciel, qu'est-ce qu'on fait quand on descend, etc., quand on revient sur terre. Eh bien, le vin blanc, n'oubliez jamais qu'il ouvre l'esprit. Hein, il ouvre l'esprit parce qu'il va faire monter. Hein. La fermentation du blanc, la vinification du blanc est beaucoup moins complexe que celle des rouges parce que l'eau et le feu vont être beaucoup plus seuls. La terre, la chair, la partie terre est dégagée par le pressoir. Donc, il va falloir mettre beaucoup moins d'air. Les deux éléments horizontaux vont être beaucoup plus faibles que les deux éléments verticaux au feu. C'est pour ça qu'aussitôt, ça va monter, parce que ça va nous emmener très vite. La fermentation du blanc va être beaucoup plus sur le feu. Une fermentation de rouge, une vinification sur le rouge, on lui met les boulets aux pieds, on lui met les raisins, on lui met toute la chair et on lui dit, mon gars, va falloir que tu te transformes en blanc, va falloir que tu révèles ta lumière. Alors depuis des années, non, puisqu'on dit on veut des rouges qui ont beaucoup de couleurs et beaucoup de matière. C'est une hérésie totale, puisque justement, on va chercher dans cette descente aux enfers, cette descente dans les ténèbres, à révéler la lumière de ces ténèbres. Donc c'est pour ça que cette vinification, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la faire. On voit bien que les gens qui se tâtent au début à faire des très bons vins, ils vont plus vite à faire des bons blancs que des bons rouges. Parce que cette partie transmutation, ils ne savent pas la faire. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mort. Et sur le rouge, la mort va être beaucoup plus forte que sur les vins blancs. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver déjà cette note des rouges qui est là, hein, au niveau du toucher, qui va presque être un toucher tannique. Parce qu'il y a déjà une petite migration tannique dedans. Voilà. Et même si elle est extrêmement légère, hein, mais il y a un peu de rouge au niveau symbolique, au niveau énergie. Il est assez assis comme vin. Même si, attention, ça n'empêche pas ce que tu disais, c'est-à-dire cette minéralité, ce côté cristallin. Mais il y a une petite partie qui est un peu assise. Et ça, c'est quand même, ça veut dire, c'est le rouge.
Hein. C'est très élancé et ça fait partie de ces vins qui partent vers le ciel. Mais... je pense que si je le faisais déguster en atelier à l'aveugle, comme c'est mon habitude de méchante organisatrice, peut-être qu'on aurait une ou deux personnes qui pencheraient vers un rosé ou même un rouge. Parce qu'il y a une richesse et au milieu de ce toucher de bouche très anguleux, il y a d'un seul coup une note très sphérique.
Ouais.
Bon, c'est du Carignan noir. Alors, autant dire qu'on n'a pas l'habitude de goûter du Carignan noir en pressurage direct. Et voilà, bon, il fallait que je choisisse quelque chose d'un petit peu amusant pour nous titiller un petit peu.
C'est très bon.
Florence, comment tu le trouves, ce blanc du Roussillon, salin et...
La note saline est ce qui démarre, ce qui vous prend. On se dit, ça va être super droit, ça va être super tendu. Et en fait, c'est vraiment comme une partition de musique, ça vient en succession. Et après, vient l'autre touche qui fait que ça prend de l'ampleur, c'est rond en bouche, ça a une souplesse, ça a une matière. Et ça garde une belle fraîcheur, alors qu'on ne le déguste pas si frais que ça, justement. Et ça reste très frais. Et je suis sûre que, comme tu dis, quand on fait goûter à l'aveugle, ça m'étonnerait fort que les gens trouvent la région.
Ah oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'on est vraiment dans une mouvance dans le Languedoc et dans le Roussillon pour aller chercher, enfin ils l'ont toujours fait, mais c'était parfois un peu anecdotique, la fraîcheur, y compris dans les rouges d'ailleurs, mais la fraîcheur dans les blancs.
Ça tombe bien en plus parce que Roussillon, c'est une région, une des rares régions qu'on n'a pas... Il y en a encore beaucoup, mais en France, c'est une des régions qu'on n'a pas explorées dans le détail. Donc, ça fait plaisir de boire ce vin de la vallée de la Glie, le domaine La Nouvelle Donne et le vigneron Wilfried Valla. C'est un vin qui coûte combien, prix caviste ?
Eh bien, nous sommes en dessous de 20 euros.
Et parfait. C'est un peu notre... nos principes aussi, de conseiller des vins qui ne soient pas hors de prix. Peut-être que pour on va passer, on est déjà en train de parler de dégustation. Qu'est-ce qui vous gêne chez les dégustateurs? Parce que en fait, je viens de comprendre la genèse de tout ça. C'est votre père qui avait une dent contre les dégustateurs, mais il vous l'a transmise. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de goûter le vin plutôt que le déguster. Et voilà, il y a un problème dans le fait de déguster, dans cette attirail technique, intellectuel, de la dégustation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui.
Oui, mais je pense qu'on va retrouver ce modèle-là dès le 18e siècle. On va déconstruire la pensée. Si on regarde bien, tous les modèles sont basés là-dessus. Quand vous faites de la socio, on déconstruit la pensée, tout, etc. Alors que la pensée, elle est une. Elle est une, justement, si on veut véritablement être dans l'inspiration. Il faut justement ne pas la déconstruire, laisser la pénétrer au cœur de nous-mêmes et la laisser se révéler de nous-mêmes. Ça, c'est plus grand. Et parce que quand on rentre dans la déduction, dans la déconstruction, qu'est-ce qui va se passer? On va inévitablement, si vous voulez, partir sur des modèles déjà préétablis d'analyse. Et donc, ce que j'appelle des logiciels et pas des intelligences.
Mais c'est ça, parce que dans la dégustation, surtout quand moi, je suis pas un professionnel du vin comme Florence, Marie, vous, c'est des choses qui sont rassurantes, en fait. Tout ce qu'on lit dans la presse spécialisée sur la façon de cartographier les arômes. Alors après, c'est un jeu. On essaye de trouver les arômes, de dire est-ce que vraiment je retrouve ce que ce dégustateur célèbre a dit, ce petit goût de cassis. Et vous, vous proposez, non, lâchez tout ça, jetez-vous dans le vide d'une certaine façon.
Oui, elle m'a fait la remarque plein de fois. On m'a dit, mais t'as jamais...
C'est très intimidant, voilà ce que j'ai envie de vous dire quand je lis votre livre. C'est intimidant, en fait. Autant dans mes premières lectures sur le vin, c'était très intimidant de voir des gens sortir tout le catalogue. Et je me dis, non, mais jamais je vais reconnaître les cépages, les machins. Mais en même temps, on se dit, c'est une masse d'informations à apprendre.
Ouais.
À limite, il tient qu'à moi d'y donner le temps, d'y consacrer le temps qu'il faut et d'essayer d'apprendre, de déguster pour essayer d'être meilleur. Non, vous proposez autre chose, proposez un lien direct, proposez de sentir avec son corps et d'aller à l'invisible. Mais c'est encore plus intimidant.
Oui, alors moi je trouve ça génial.
Mais c'est très excitant, je vous confirme.
Moi je trouve ça génial, mais c'est vrai, moi je le vois au travers des gens que j'ai souhaité déformer. Où les gens reprenaient leur peur, leur peur revenait immédiatement au galop et reprenaient le langage. Et on le voit, on le voit dès qu'on leur demande de parler du vin. Alors nous sommes en présence d'un vin, ça commence comme ça. Là, vous savez que déjà c'est mort, le type, il prend aucun plaisir.
Ah, il y a une formule, c'est on est sûr.
Voilà.
Donc, on est sûr du vin.
On se dit, mais.
On l'a aussi en cuisine. Alors là, maintenant, on est sur une terre d'olive avec un gazpacho de cerise. On est sûr.
Voilà. Et c'est affligeant parce que vous voyez le clone, vous êtes à table, il y a un sommelier qui vient vous servir, vous voyez le clone d'un clone, d'un clone, d'un clone, d'un clone, et ça fait 200 ans qu'on est dans cette dégustation matérialiste et avec des changements de mode. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que le terroir, il n'y a pas de mode. Hein, le goût d'une carotte vraie, d'un terroir, on ne change pas le terroir, c'est comme ça. On a changé de mode. Dans les années 80, il fallait du tanin, du bois, il fallait de la rondeur, il fallait du velours, etc. Aujourd'hui, on est complètement en train de changer. Moi, j'ai vu le mot minéralité. On était dans les tout premiers avec Jacques Puiset, Didier Dagneau, Henri Jaillet à utiliser. Donc, il y a 35 ans, on parlait de ces mots-là, on se faisait totalement. Ils sortent des trucs, la verticalité, la minéralité, ça n'existe pas. Je vais dans une dégustation il y a 5, 6 ans, 7, 8 ans. Ouais, bien.
Minéralité à tous les étages.
Minéralité à tous les étages.
Même c'est un terme qui est encore relativement décrié, débattu quand même.
Mais il faut voir les explications qu'il y a dessus hein, quand même. Là aussi, ça vaut le coup. Hein. Je suis extrêmement surpris de voir que des journalistes qui étaient à table employaient le mot minéralité sur des vins qui avaient des phénols volatiles assez importants. Et ces phénols volatiles, évidemment, il y a une forme de scintillant, mais ce n'est pas du tout le même scintillant. Et celui-là me gêne beaucoup, évidemment. C'était non marchand. Des vins qui étaient non marchands. Et ils trouvaient de la minéralité. Alors, c'était un grand vigneron, mais il avait eu un gros pépin cette année-là. Et les vins avaient tous des problèmes. Bon.
Non marchand, vous voulez dire qu'on ne pourrait pas vendre.
Les taux de phénols volatiles étaient beaucoup trop élevés.
Voilà. Ah oui.
Je demande à faire des analyses au vin, parce qu'ils me rigolonnaient, ils me disent, alors là, Bruno, mais là, t'es ailleurs, ça ne va pas. Écoutez, vous parlez de minéralité, c'est marrant, parce qu'il y a 35 ans qu'on en parle, mais je ne sais pas, il y a un petit problème. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les échantillons à Dijon, et on fait des analyses. Et tous les vins étaient refusés.
Pour des phénols volatiles trop élevés.
Voilà, phénols volatiles trop élevés. Donc on avait une espèce de vernis, des choses comme ça, sur des blancs, d'un vignon très très connu. Hein. Et là, c'était la stupeur. 15 jours après, évidemment, l'ambiance était un peu morose quand on s'est rencontrés. Mais je dis attention, là, voyez, faites très attention parce que d'un seul coup, ça devient la mode, le mot vient à la mode. On l'utilise, voilà, on se l'approprie, mais on n'a pas été au cœur de soi-même pour recevoir cette minéralité. Et en plus, il y a minéralité, il y a minéralisation, c'est deux choses différentes. Hein, la minéralisation, c'est dans le phénomène qui va se produire pendant l'élevage, et donc les saveurs du cépage vont se minéraliser. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'on a beaucoup de jus de raisin fermenté.
David Lefebvre, qui est repris dans Le vin naturel de François Morel, parle de ce phénomène-là. Et en gros, pour essayer de donner une définition de minéralisation, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est les éléments stables deviennent des éléments... Enfin, instables deviennent des éléments stables.
Voilà, c'est que la première partie du... Voilà. Mais c'est déjà pas mal.
L'organique devient minéral, c'est ça. Une sorte de fossilisation...
C'est pour ça que sans minéralisation, il n'y a pas de vieillissement dans les vins. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des vins à date de péremption. Parce que la partie organique, si vous voulez, quand elle n'est pas minéralisée...
Oui, elle est instable.
Elle est instable, et par essence, et sur Terre, de toute façon...
C'est un phénomène de stabilisation.
Soit on met beaucoup de soufre, soit on pasteurise, mais de toute façon, un jour sur Terre, tout ce qui est organique repasse par la putréfaction. Donc on va avoir soit une bactérie, une enzyme qui va redémarrer. Enfin, il y a un problème. Ça, c'est inévitable.
Oui, il y a de la récupération sur des très jolis mots de 5 syllabes. La minéralité ne pourra pas faire exception. On peut pas... j'ai entendu décrire un gaillac en passant complètement à côté de la minéralité ou minéralisation, parce que là, je m'en remets à toi, mais d'un cépage comme le brocol qui va ramener des notes un petit peu... qui va charrier une partie des crasses ferriques ou des sous-sols, un petit peu des petites notes ferrugineuses très intéressantes, quand on est prévenu et qu'on parvient à l'appréhender. Et puis, j'entends par contre décrit comme minéral un vin rouge qui était clairement acide en sous-maturité, issu d'un seul mort. Bon, c'est très agaçant.
Pour revenir sur la notion de dégustation, pardon Florence.
Vas-y.
C'est le lâcher-prise est vertigineux, effrayant. Après, ce qui est rassurant, et vous le dites dans le livre, faut déjà partir au simple, hein, sur le j'aime pas.
Mais c'est là, ça commence là.
Donc juste pour.
C'est la base.
Pour, non mais voilà, mais juste.
Ça, ils l'ont oublié.
C'est comme vous dites après dans d'autres, hein, c'est difficile d'être simple. Hein,
voilà. Exactement.
Revenons au simple.
Vous dites c'est vertigineux, ça fait peur. Alors moi, je peux vous citer un exemple qui vient pas du tout du monde du vin. J'ai suivi la carrière de cet homme pendant toute sa carrière, pratiquement le début de sa carrière. C'est celle d'Ayrton Senna. Donc ça n'a rien à voir avec le vin. Mais la vitesse est intéressante, surtout quand on s'intéresse à la lenteur. Parce que ça explique plein de choses. Surtout la façon dont il l'abordait. Et quand il est décédé, on a posé la question à un ingénieur de chez Lotus ce qui s'était passé lors du Grand Prix d'Estoril sous la pluie. Il y a un déluge monstrueux. Il avait une voiture à moteur turbo. C'était les premiers moteurs turbo. Et la voiture, c'était inconduisible, surtout sur la pluie. Il y avait 6 champions du monde sur la piste. Lui, il était tout jeune. Et il se met à doubler. Et il double. Et il prend un tour et demi d'avance sur le deuxième. Enfin bon. Et à un moment donné, la voiture lui échappe dans la grande courbe d'Estoril. Et la voiture fait une boucle comme ça, mais elle ne s'arrête pas, elle continue. Et donc, c'est tout ce qu'il a fait, et puis il a gagné, parce qu'il a pratiquement perdu une demi-seconde, même pas une demi-seconde, pendant cette rotation. Et il y a un journaliste qui l'interroge après, en lui disant, mais comment c'est possible ce que vous avez fait? C'est incroyable, c'est fou. Et puis la figure, comment vous avez rattrapé la voiture à cette vitesse-là, à 180 km/h, soit la pluie? Et Senna, et l'autre lui dit, quel contrôle? Et Senna répond, non, pas du tout. Et l'autre, il insiste, il dit, mais si, la maîtrise, on l'a bien vu. Mais pas du tout. Et on dit, comment vous avez réussi alors? Mais il dit, parce que je pensais à rien.
Voilà. La tête ne pensait pas, mais alors, le corps savait peut-être.
Voilà, il avait tout intégré avant, mais il ne pensait pas. Et quand on déguste, quand on goûte un vin, il faut tout oublier, même qu'on est en train de goûter un vin.
Ça m'évoque autre chose qui, je trouve, est évoquée, enfin, est présent à l'esprit quand on vous lit. C'est les parallèles avec la méditation, avec le principe de faire le vide et de s'ouvrir finalement.
Alors, on ne fait pas le vide, hein, on le laisse faire. Sinon, ce n'est pas du vide, c'est un plein, c'est le mental. Voilà. Mais pardon, c'est juste.
On essaye de ne penser à rien, de s'ouvrir au sens.
Il faut laisser venir le vide, en fait. Hein. Laisser venir le vide, voilà. C'est vraiment parce que si la méditation est un agir, c'est pas une méditation. Donc il faut c'est vraiment.
C'est un non-agir.
C'est un non-agir. Donc c'est un état où on laisse venir cet état. Voilà. Et tant qu'on essaie.
Est-ce que c'est des pratiques dont vous êtes proche? Est-ce que vous acceptez ce type de parallèle?
Tous les matins, 20 minutes à une demi-heure.
De méditation.
Tous les matins depuis plus de 20 ans.
Et cet éloge de la lenteur, ce rapport au temps et au vide, j'imagine que le confinement a dû t'inspirer pas mal de choses.
Oui, même si je n'ai pas pu, contrairement à certains, prendre beaucoup de temps. Mais oui, bien sûr, bien sûr.
C'est intéressant pour le commun des mortels de ralentir et de s'apercevoir à quel point on bourre l'agenda en permanence. Et ce qui se passe et ce qui jaillit comme idée et comme énergie, quand d'un seul coup on est contraint au vide, oui. À la lenteur et à la réflexion.
Oui, c'est intéressant par rapport aux philosophies, notamment les Japonais. Un Japonais, il rentre dans une pièce vide, il n'est pas choqué. Un Français, un Occidental, il rentre dans une pièce vide, il a peur. La chambre de l'empereur du Japon, j'ai un ami qui l'a visité, c'est vide, il n'y a rien. Un Occidental, il rentre, il sauve, parce que ça fait peur. Voilà, c'est intéressant. Et cette notion de lenteur dans le vide est quelque chose de fondamental. Et c'est pareil, quand vous êtes devant un verre de vin, vous le recevez, si vous l'accueillez, et vous n'êtes pas pressé de parler. Vous n'êtes pas pressé de parler, de dire. Le mot va jaillir de lui-même. Hein. Enfin, le mot ou une mime, peu importe, un chant, ça n'a pas d'importance. Même si on vous prend pour un fou, ce n'est pas grave. Le ridicule ne tue pas. Et donc, ce n'est pas grave de dire... Moi, il m'est arrivé de dire sur une autre vie, un jour, devant des sommeliers, tiens, je vois une chapelle, une église en haut d'une montagne. Bah, tout le monde a éclaté de rire, sauf le propriétaire, qui dit, ah, mais il y avait une chapelle en haut de la montagne, de la vigne. Bon, pas grave, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, le problème d'avoir peur du ridicule, c'est de ne pas se libérer de nos peurs et donc de ne pas trouver notre liberté, notre chemin de liberté. Et ça, si on le bloque sur le vin, on va le bloquer sur tout. C'est-à-dire que, et du coup, on va
visiter une galerie. C'est une posture générale, en fait.
Voilà, si vous visitez une galerie de tableaux, eh bien, évidemment, s'il n'y a pas un professeur d'histoire de l'art qui vous enseigne, vous ne savez pas. Bah, si, normalement, si. Ça résonne, ça ne résonne pas. Peu importe. Et il n'y a personne qui se trompe. Un jour, j'ai entendu un prof d'œnologie dire à quelqu'un, ah non, ce vin-là, il ne peut pas avoir le goût de châtaigne, parce que s'il avait le goût de châtaigne, ça ne serait vraiment pas ça. Je l'ai regardé, j'ai attendu un peu, je ne voulais pas devant tout le monde. Je lui ai dit, mais si la personne sent la châtaigne,
c'est qu'elle y est.
Tu es sûr que toi, tu peux dire que lui, il ne la sent pas. Si elle est sincère, si elle sent la châtaigne, alors c'est qu'elle la sent. Elle n'y est peut-être pas, mais il la sent. Donc ça veut dire qu'il est en résonance avec quelque chose qui lui rappelle la châtaigne. Et toi, tu peux dire que... voilà. Et après, je lui dis, mais ton pH de salive, ce n'est pas le même que le mien. Quand tu bois un vin acide ou un vin basique,
c'est un point très important. Alors, on va parler de ce rôle de la salive.
Oui, non, en fait, ça me fait penser à quand j'étais prof. On me demandait de faire des ateliers dégustation de vin avec mes élèves. Et moi, entre autres, j'étais prof de cuisine. Et je devais faire une fois de temps en temps dans l'année un atelier dégustation vin avec mes élèves de cuisine pour qu'ils sachent un petit peu de quoi on parle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça commençait. Ah non, le vin, j'aime pas ça. Non, de toute façon, moi, je sais pas le dire, moi je sais pas l'expliquer. Et ce que je disais toujours à mes élèves, on s'en fout, on va pas faire dans l'ordre, tout ça. Vous goûtez comme ça, vous buvez et vous me dites je kiffe ou pas. Et puis vous verrez après, ça va venir tout seul ou pas. Et c'était toujours plus intéressant de faire l'atelier dégustation avec les élèves cuisiniers qui avaient pas de base, qui savaient rien. Qui avaient juste leur goût, alors plus ou moins développé, parce que ça se voit aussi quand ils font des recettes de cuisine. Est-ce que c'est très alambiqué? Est-ce que au contraire, ça, tu sens qu'il y a une racine forte de quelque part dans leur éducation? Que les élèves qui étaient en sommellerie ou en service, à qui on avait commencé un peu à intégrer, alors d'abord tu fais la couleur, après tu fais le nez, après tu fais la bouche.
Pervertis.
Ouais, et en plus, il y a un truc qui m'énerve et que je le dis toujours. Et pas que aux élèves sommeliers qui me met la rage avec les clients et qu'à chaque fois c'est ces gens qui prennent ils vont pas revenir tout de suite. C'est quand les gens ils prennent le verre de vin et que tout de suite ils secouent, ils aèrent, mais attends, laisse-le vivre. Il a des choses à te raconter. Le premier-né, c'est dans les étapes. Mais je trouve que s'il faut suivre des étapes, celle-là, elle est importante et elle est souvent squeezée parce que tout de suite, on a air, faut qu'on mette de l'air. Mais pourquoi faut qu'on mette de l'air?
Éloge de la lenteur encore.
Ouais, c'était pas expressément pour ça. Mais moi, je trouve qu'un vin, souvent, moi, ça me parle musicalement et je trouve que c'est comme si tu écoutais ton morceau de musique préféré et puis tu coupais l'intro et que tu allais directement au refrain. Et c'est dommage.
Et je rejoins Florence en atelier. Le préambule dont j'ai fini par comprendre assez vite qu'il était essentiel, c'est vraiment de... Alors, tu peux pas dire à des clients « on va se débarrasser de l'ego ce soir », autant leur demander de... Bon, on peut couper leur cravate, mais ils arrivent en général sans, ce sont des gens sympathiques. Mais au minimum, leur dire de se faire confiance, et ça, je t'ai entendu le dire plusieurs fois, d'écouter leur corps, d'écouter leurs sensations, que c'est plus important qu'un vocabulaire technique, voire barbare. Et enfin, tu ne peux pas avoir le même catalogue sensoriel que le type d'à côté, quoi. T'as pas grandi dans les mêmes jardins, t'as pas mangé les mêmes fruits quand t'étais petit, t'as pas eu les mêmes grands-parents, et on parle même pas de ce que j'ai appris. Moi, à l'école, pendant un an, on m'a expliqué que j'allais avoir des sensations salées, amères, etc., à tel endroit de la langue, et ce n'est pas à ces endroits-là que je ressens ces sensations. Et heureusement, j'ai fini par me débarrasser de ça et de cette peur. Et c'est de l'ego, en fait. Parce que je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui n'était pas comme les autres ou qui ne ressentait pas aussi bien le vin. Et j'ai fini par comprendre que non seulement c'était faux, mais qu'en atelier, il faut dire aux gens, on a tous nos sensations, maintenant je vous écoute.
L'autre tradition, qui n'est pas ancestrale, mais qui commence à avoir 3 ans, c'est qu'on propose à l'invité d'apporter son vin. Mmh. Et donc, vous avez apporté, Bruno Quenu, un vin. Je vous laisse du coup nous le présenter. Comment vous le présenteriez, même quand vous êtes dans votre métier habituel de caviste dans le 9e arrondissement à Paris, Filovino?
Alors, tout d'abord, c'est une terre mythologique. Hein. On est de sang Santorin. C'est une terre qui me touche beaucoup. On est en Grèce, sur cette île des Cyclades, au sud des Cyclades, qui était une terre volcanique, hein, ce fameux volcan effondré il y a 3600 ans. C'est un cépage qui me touche particulièrement parce que aussi ce cépage est passé au travers l'effondrement du volcan, donc il a survécu l'effondrement du volcan, donc il a au moins 3600 ans.
C'est quel cépage ?
Assyrtiko.
Assyrtiko. Mmh. C'est un des cépages grecs les plus connus.
Voilà, et son berceau, c'est Santorin. Après, on le retrouve ailleurs parce que c'est un très, très grand cépage, évidemment.
À Tinos, juste en face, notamment.
Tinos, voilà. On le retrouve aussi en Grèce, hein, au nord d'Athènes. Hein. On le retrouve à plusieurs endroits. Mais là, surtout, en plus, c'est un tout petit domaine qui a été racheté par le domaine Argyros, par Mathéos Argyros, que je connais bien, parce que je fais tous les ans, je signe une cuvée tous les ans chez lui, où je fais mon assemblage, sur de la Assyrtiko aussi, mais pas sur cette cuvée-là. Cette cuvée-là, c'est vraiment un tout petit domaine, 5 hectares, des vignes entre 200 et 300 ans. Donc, non greffé, on est sur un sol non greffé, on est vraiment sur du volcanique. C'est quelqu'un, ça a été le premier viticulteur qui a été en culture biologique sur le lieu.
Citons le domaine.
Donc, pur.
Pur, voilà. C'est le nom pur. De la cuvée ou c'est le nom du domaine?
C'est le nom de la cuvée et du domaine parce qu'il n'a pas voulu mettre son nom. Mathéus n'a pas voulu mettre son nom. Donc, en fait, c'est le nom de... Il n'y a qu'une cuvée. C'est vraiment quelqu'un qui s'est engagé pour aller très, très loin pour révéler les vins de Santorin. Et cette cuvée-là a atteint aujourd'hui un niveau qui est assez invraisemblable de pureté. Là, on a des racines jusqu'à 30 mètres hein, dans la pierre ponce hein, et dans la lave. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on goûte ces vins-là? J'étais très content parce que...
c'est magnifique.
Comment il s'appelle? Gérard Marjon m'a dit que tout avait basculé dans sa carrière et dans son amour du vin sur un vin de Santorin. Il m'a dit, avant, j'aimais les vins, je ne comprenais pas ce que tu disais, des trucs comme ça, bon, l'énergie, etc. J'ai goûté un vin de Santorin, il dit, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mais ça vibre partout, c'est énorme. Et en fait, je pense que quand on goûte ces vins-là, on comprend quelque chose. On comprend qu'il y a des forces. Il y a des forces mécaniques, il y a des forces électromagnétiques qui sont en jeu et qui dépassent la saveur, qui dépassent la matière organique, qui dépassent toute la matière, qui dépassent le liquide lui-même. Et c'est pour ça que quand on boit ces vins-là, surtout quand ils ont quelques années, là c'est un vin qui est encore jeune, hein, c'est en 2016, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand on le boit. Si on sait l'accueillir, ça vibre très fort. Je vais vous raconter une petite anecdote sur un vin de Santorin. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je faisais une conférence à Beaune avec une trentaine de vignerons tous assez célèbres. Et j'avais un de mes amis, caviste, comme je disais tout à l'heure, Yves Legrand, qui était là d'ailleurs, il peut en témoigner. Et je faisais une conférence justement sur le désapprendre à déguster pour réapprendre à trouver le vin, son vin intérieur. Et j'avais fait venir Frère Jean, mon ami qui a vécu 5 ans moins tôt, c'est 13 ans dans le désert en tant qu'ermite, et qui aime le vin, qui aime cuisiner. Et à un moment donné, je leur demande de ne pas déguster le vin. Ce vin, j'avais au départ mis un grand Bordeaux, qu'on avait coupé en une bouteille séparée par deux carafes. Chaque table avait deux carafes qui venaient de la même bouteille, mais ne le savaient pas. Un Bordeaux très bien noté, qui, lors de la dégustation, ils ont trouvé que c'était un très grand Bordeaux. Et quand je leur ai fait faire un exercice sur l'autre carafe, ils ne savaient pas que c'était le même vin. L'exercice avec la salive et la lenteur, d'un seul coup, ils ont dit « ça, c'est pas bon du tout ». C'est intéressant. Hein. J'ai fait la même chose, mais on ne leur a pas révélé que c'était les mêmes vins. On a fait les mêmes choses avec un Bonnemare de chez Arlo 2004. On a mis deux carafes, etc. Et là, ils ont trouvé très bon le premier. Et le deuxième, ils l'ont trouvé encore meilleur. Je lui ai dit, tiens, c'est intéressant, puisque là, vous avez découvert ce que c'est que le vin intérieur. La différence, tout à l'heure, on avait un vin dont la puissance est à l'extérieur, mais la puissance intérieure est morte. Alors que là, on a un vin dont la puissance extérieure est assez faible, le Bonnemare 2004 de Arlo. Par contre, la puissance intérieure était énorme. Et quand on laisse venir le vin à soi, d'un seul coup, il peut parler. Parce qu'on l'a pas pris, quand on le déguste, on le prend comme un objet. Et quand on l'accueille, il devient sujet. Donc, son énergie peut fleurir en nous. Ça, c'est vraiment important, exactement comme avec un individu. Si vous êtes en train d'analyser un individu pour un emploi et que vous l'analysez, vous êtes dans le jugement et donc il va se sentir objet, il est bloqué. Si vous l'accueillez en tant qu'individu, il devient sujet, il va se révéler. Voilà. Et tout le monde va y être gagnant. Et alors donc, et ils n'arrivaient pas à sortir de la dégustation. Je leur disais, mais non, ne cherchez pas ce que c'est. Ne cherchez pas ce que c'est, c'était à l'aveugle. C'est pas parce que c'est à l'aveugle qu'on vous demande ce que c'est. Restez comme vous êtes, buvez-le tranquillement et dites-moi si vous l'aimez, ce que vous ressentez, etc. Impossible, ça dégustait. On était il y a 15 ans. Hein. Donc tout ce message n'était pas encore arrivé. Et à un moment donné, Frère Jean, qui est à côté de moi, avec sa grande barbe orthodoxe, là, comme ça, dit « c'est un vin qui a en lui la mémoire du feu de la terre. » Petit sourire, c'est pas très œnologique comme discours. Et moi, je sursaute. Santorin. Et je dis à tout le monde, écoutez, vous avez entendu ce qu'il vient de dire ?
C'est lui qui a gagné.
Il a dit, ce vin a en lui la mémoire du feu de la terre. Alors, je dis, mais c'est un vin de Santorin, je sors la bouteille. Et Yves Legrand lui dit, mais comment est-ce que vous avez trouvé ? Et Frère Jean dit, parce que je ne suis pas spécialiste.
Voilà. Tout est là. Pour clore ce chapitre sur la dégustation, et on l'a tout petit peu évoqué, la salive, le rôle de la salive, vous êtes plutôt contre ce qu'on appelle le grumage, le fait d'avaler de l'air là, pour mélanger la rétro-nasale, etc. Vous êtes plutôt... Je me rappelle qu'Antoine Gerbel nous avait fait à peu près le même constat. Il disait qu'il n'aimait pas trop ça, qu'il avait cessé de faire ça, mais qu'il mâchait le vin.
Mâcher, oui.
Comme on mâche un aliment, un peu comme les anciens, et que c'est ce que vous appelez goûter, tâter, en reprenant, parce que vous êtes assez amateur d'étymologie, la logique du taste-vin, du tâter le vin avec sa bouche, plutôt que de faire rentrer de l'eau, de l'air. Et ça révèle aussi les arômes à travers le rôle de la salive qui, c'est scientifiquement démontré aujourd'hui, a un rôle clé pour activer un certain nombre de papilles qui ne sont pas sur le dessus. Enfin, la langue est tapissée, la bouche est tapissée de papilles. Et la salive est un élément essentiel. Donc là, je ne dis pas de bêtises. C'est, oui.
La salive est un liquide miraculeux. C'est 99% d'eau uniquement. Et le reste, c'est 1%. Et dans les 1%, on en est à plus de 1100 composants. C'est un antioxydant exceptionnel, un antibactérien, c'est comme les larmes, c'est des liquides miraculeux. Et donc...
Et comme le disait Marie, on n'a pas tous la même.
Et on n'a pas tous la même. Chaque salive a un goût, voilà, évidemment. Mais c'est un révélateur aussi.
Peut-être pas déguster des salives tout de suite, mais...
Et surtout
c'est tout l'intérêt de la rencontre.
Et pour la digestion, c'est super important que le vin soit lié à la salive. Vous allez faire votre vin. c'est pas rien. Vous allez faire votre vin avec votre salive.
C'est une façon de s'unir. Se l'approprier.
Voilà. Et quand vous allez le digérer, vous digérerez beaucoup mieux un vin qui a fait unité avec votre salive qu'un vin qui est un tiers. On n'est pas fait pour digérer un tiers. Hein? C'est important. C'est très, très important. Et si on veut que, ici, il se passe de grandes choses dans notre corps, sur le plan énergétique.
Quand vous dites ici, vous touchez votre estomac, votre poitrine.
Voilà, le plexus solaire, différentes places. Le vin va se placer différemment aux différents endroits. Si on sait s'écouter, on va découvrir sur un vin comme ça qu'il se passe des choses absolument énormes.
Moi, ce vin.
Et les anciens le disaient, le vin, ça doit venir de là, d'abord.
Exactement.
Avant.
Ils goûtaient avec leur ventre.
Avant de réfléchir.
Voilà, bien sûr.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le verre comme nous, il faut juste préciser que. Je ne sais pas si on l'aurait deviné à l'aveugle, on devrait, mais ce côté franc de pied, tu as une liberté et une longueur qui est rarement atteinte dans d'autres vins, puisque en général, on est sur porte-greffe. Je pense que c'est
les plans américains, tout
familier.
Ça.
Et puis, cette note fumée, et donc là, tu nous le confirmeras, mais on n'est pas dans une volonté du vigneron, un élevage, une chauffe en tonnellerie ou quoi que ce soit d'autre que le sol volcanique.
Non, tout l'objectif, quand il a racheté ce domaine, c'était, parce que c'est un petit joyau, hein, c'était véritablement de ne pas corrompre. Hein, ne pas corrompre ces forces incroyables qui viennent du sous-sol, hein, qui sont là, qui sont encore actives par le volcan. Donc il y a des forces énergétiques quand on se promène à Santorin qui sont incroyables. Les magnétiseurs se régalent hein, sur des lieux comme ça. Et donc là, vous avez ça. Et si vous avez ceux qui ne sont pas au micro, peuvent, si vous voulez, laisser du temps. Laisser du temps. Parce que mâcher, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit un agir. Il faut que ce soit un mâchage très lent. Et laisser du temps pour que la salive ferme les yeux et laisser le vin pénétrer votre salive accueillir le vin. Et vous allez voir qu'il y a des petits sels dynamiques qui vont commencer à scintiller et qui vont vous montrer ce que c'est que les forces. On va être sur des forces magnétiques et supramagnétiques qui viennent de cette alliance de l'eau et du feu, qui est déjà très forte sur le terroir, sur le lieu quand on y va, cette alliance de la rencontre des eaux profondes et de ce feu. Mais en plus de ça, quand on est dans ces vins-là, si vous voulez, cette rencontre, elle se fait pendant la vinification, surtout que le lieu, la cave, c'est la plus vieille cave de Santorin. Donc, il a racheté la cave avec, il l'a restaurée, c'est magnifique. Mais c'était surtout pour rester, comme tu le dis, ne pas corrompre, ne laisser le vin. Évidemment que c'est un accompagnement avec beaucoup de rigueur. On ne peut pas faire un vin comme ça, c'est pas aléatoire. Hein. On voit bien que c'est pas barré, hein. C'est très très précis. Mais ce scintillant, ces forces, si vous voulez, c'est elles qui font, c'est ces forces-là qui font luire les saveurs, qui donnent du panache aux saveurs. Sinon, on serait sur des saveurs passives. Il y a beaucoup de vins aujourd'hui, vous les goûtez, ils sont très bien faits. Ce sont des saveurs passives, ce ne sont pas des saveurs actives. La véritable magie, elle va venir quand les saveurs sont actives. Qu'est-ce qui va activer les saveurs? C'est l'eau chargée des forces. Voilà. C'est pour ça que les grands crus de Bourgogne, vous prenez la différence entre un même pinot noir en bas de Vosne-Romanée dans les limons et sur les grands crus de Vosne-Romanée, c'est le même pinot noir. Vous mettez ça dans une cuve, vous laissez ça à la dégustation du raisin, vous aurez la même chose. Par contre, quand vous allez laisser se minéraliser par ces différentes mores, vous allez avoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les eaux qui sont sous les grands crus sont très puissantes. Et c'est pour ça qu'on se promène, il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des baguettes de sourcier, des pendules là-bas, etc. On n'a pas besoin, c'est tellement puissant, on peut y aller comme ça. Eh bien, vous allez avoir... Pardon,
vous pouvez y aller avec sa serviette et son maillot de bain, mais
voilà.
Vous êtes sourcier, donc vous ressentez ces choses-là.
Non, mais moi, j'ai emmené des gens sans les prévenir. J'ai emmené des gens sans les prévenir sur des lieux, parce que je sais exactement, je perçois exactement les endroits où c'est très, très puissant. J'ai mieux vous dire que les gens se sont arrêtés d'eux-mêmes et disent « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Parce qu'il y a des endroits, si vous voulez, sur le nœud du Clos de Vougeot avec les Musigny, tout ça, là, ça fouette. Hein. Si on sent rien, c'est que c'est bizarre. Et les Bourguignons sentent plus rien, parce que de toute façon, ils sont dessus, eux. Mais c'est tout ça pour dire que ces forces-là, si vous voulez, c'est comme une partition... et un piano et puis un pianiste, une partition de Bach, si vous voulez, le piano il y a tout, et c'est pour ça que le pinot noir, on va prendre un orgue, c'est encore mieux, un orgue, il y a la panoplie de possibles est énorme.
Merci pour ce vin grec magnifique. On invite chacun qui le peut, et quand les avions voleront à nouveau à aller se rendre dans les Cyclades, ces paysages merveilleux et ces vins merveilleux. Je voudrais terminer avec vous sur votre regard sur les pratiques. Aujourd'hui, on a parlé longuement de dégustation. Au-delà de la dégustation, vous parlez dans le livre, dans La vie mystérieuse du vin, du rapport du vigneron à son terroir. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure sur cette humilité que doit avoir le vigneron au terroir. J'ai envie d'élargir un tout petit peu sur qu'est-ce qui, pour vous, dans les pratiques aujourd'hui du monde du vin, que ce soit commercial, mais là j'ai plus en tête la partie vigneron, la façon dont on fait, qu'est-ce qui doit vraiment changer, qu'est-ce qui, dans notre regard au vin, doit évoluer aujourd'hui, il est grand temps qu'il évolue.
Là, c'est une question qui est large.
C'est vaste, enfin, l'émission.
Beaucoup, beaucoup de choses, ouais.
Vous avez 5 minutes. Ouais.
Voilà. Je ne suis pas très bon dans les résumés.
Vous proposez un nouveau paradigme, pour employer un gros mot, mais une nouvelle façon d'envisager les choses par rapport à ces vignerons qui produisent des vins, qui essayent d'épater la galerie ou qui font des vins étranges, qui essayent de surprendre. Vous, vous proposez de se raccorder d'abord à son terroir, c'est la notion la plus fondamentale, et c'est l'exemple que vous preniez sur la Bourgogne avec ce terroir millénaire. Expliquez-nous cette idée d'humilité. Pour tout vous dire, c'est quelque chose qui me frappe parce que il me semble qu'on fait un parallèle assez facile avec une discipline artistique dans le travail du vigneron, dans la façon dont vous le décrivez. Et l'humilité n'est pas quelque chose que je trouve qui va de soi. Il me semble pas que les plus grands artistes soient forcément humbles. En tout cas, moi, je ne leur demande pas nécessairement d'être humble. D'être sincère, oui. L'humilité, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est s'effacer devant son terroir. Ne pas vouloir se mettre en avant.
Oui, c'est un effacement. C'est-à-dire que déjà, je crois que la première chose qui est très, très importante, bon, il y a quelque chose qui m'a choqué quand j'ai commencé dans le vin, quand j'ai fait mes voyages dans les années 83, 84, où j'allais notamment à Bordeaux avec des domaines où il y avait un chef de culture et un maître de chez. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'arrivais en Bourgogne, dans les grands domaines, ça n'existe pas. Ça, c'est...
On ne dissocie pas la viticulture, voilà, le paysan du vinificateur.
Voilà. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre quel était l'écart de philosophie qu'il y avait derrière tout ça. Et ce que je remarquais petit à petit, rencontrant de plus en plus les gens des grands domaines, c'est que il y avait une forme d'humilité devant le terroir. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'essayais de comprendre. Et petit à petit, j'ai compris que dans tous les autres vignobles du monde, hein, c'est pas seulement Bordeaux, c'est pas partout, si vous voulez, c'est le vigneron qui décide de la grande cuvée, d'où vient la grande cuvée, quel est le terroir qui va faire la cuvée prestige. En Bourgogne, ça n'existe pas. Le terroir de la cuvée prestige, il est là depuis la nuit des temps. Donc le vigneron n'a qu'à se plier à ça. Donc, c'est pas lui qui va décider. Donc, déjà, pour l'ego, ça change déjà beaucoup de choses. Parce que un vigneron va chercher le bon terroir, etc. C'est pas pour autant qu'il va avoir un ego surdimensionné. Mais dans la transmission du geste et la transmission de l'accompagnement du vin, ça va changer au niveau de la région, j'entends. Pas sur un vigneron, mais de la région, ça va changer quelque chose de très fort. Et puis, depuis, en plus, quelques années, on voit bien que les grands domaines retravaillent le Bourgogne rouge comme le Chambertin. Les très grands domaines, c'est pareil, il n'y a pas d'écart. Et ils ont une confiance au terroir qui est absolument invraisemblable. Personne n'oserait faire ça, de dire la grande cuvée, elle est vinifiée exactement comme la petite cuvée. Personne. Vous allez au domaine Trappé, vous allez dans tous les grands domaines, chez Rousseau, le Gevrey, il est travaillé maintenant. Il y a une époque où ce n'était pas tout à fait le cas. Maintenant, c'est revenu. On travaille pareil. Donc le vigneron a une confiance au terroir qui est unique, si vous voulez. Les autres, ils essaient de quand même faire quelque chose qui va faire que la grande cuvée va être plus impressionnante. C'est pas un reproche qu'on leur fait. C'est tout simplement un constat, si vous voulez, d'une mythologie d'un lieu où les hommes appartiennent à la terre et pas le contraire. Et ça, c'est vraiment important, notamment à Bordeaux, où on sent le niveau, surtout dans les grands crus classés, on sent le niveau du propriétaire. En Bourgogne, ils sont pas propriétaires. Aubert de Vilaine ne se sent pas du tout propriétaire de la Romanée Conti. En aucun cas. Il est au service d'eux. Il est dans la Bible. Dans la Bible, on va retrouver la notion du serviteur inutile. Stan Rougier dit imaginez que le l'âne qui porte le Christ en rentrant dans Jérusalem pense que les acclamations étaient pour lui. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça, si vous voulez. Voilà. Là, en Bourgogne, les acclamations, elles sont pour le terroir. Elles sont pour cette et pour les sages. les sages d'avant, si vous voulez, cette mythologie. Moi, je disais un jour, on me faisait venir pour un examen de sommellerie, juste avant l'examen, on me dit, il faudrait que tu viennes leur faire une petite conférence, les bousculer un peu, parce que c'est pas du tout ce qu'ils vont avoir entendu pendant 2 ans d'école. Et je leur demande ce qu'ils faisaient quand ils débouchaient une bouteille à un client, ou même pour eux-mêmes. Ils m'ont regardé, aussitôt ils m'ont répondu, très bons élèves, on sent le bouchon. Et je les ai regardés, et j'attends, j'ai dit, rien d'autre. Donc les élèves commencent à regarder les profs s'inquiètent, se disent, ben, pourtant c'est ce qu'on leur a appris, les profs regardent les parins finissent par me regarder en disant, ben, Bruno, ben, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on a au moins 8500 ans d'histoire du vin. En Bourgogne, les grands domaines travaillent avec tous ces personnages mythologiques, ces moines, toutes ces familles qui ont œuvré pour sortir ces grands vins. Et nous, sommeliers, on arrive au bout et on débouche une bouteille et on oublie cette dimension sacrée qui fait qu'aujourd'hui, grâce à 8500 ans de souffrance, de rire, de passion incroyable, on a ça.
De sang et de larmes.
Qui est unique. C'est unique, c'est le seul produit au monde qui est comme ça. Et les profs se disent, on n'enseigne pas ça aux enfants. Et c'est étonnant de voir que les élèves venaient tous à la cave après, quelques jours après, nous poser plein de questions là-dessus. Ça les avait bouleversés. Voilà.
Ce que vous dites, oui, c'est que le terroir est toujours au-dessus du geste.
Voilà. Et donc l'effacement, il n'est pas seulement au niveau du terroir. Il est au niveau de tous les anciens qui sont là. À Santorin, quelqu'un qui voudrait faire fi des anciens, ce serait horrible. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, notamment Aubert de Vilaine ou des gens comme les Trappets, etc., qui respectent énormément les anciens et qui ne vont jamais trop vite. Ils ne changent jamais quelque chose vite. Ils disent, on peut pas, on n'a pas le droit. En une génération, on n'a pas le droit de faire tout ça. Doucement, doucement.
Et quand voilà. Tu parles d'ego en Bourgogne, tu fais référence à une culture classique, c'est un terme impropre d'ailleurs, mais à ceux qui bâtonnaient énormément, qui abusaient de l'élevage. Donc, tu dois être contente de voir que la
ça
tendance, ouais,
ça, oui, je,
la tendance va vers la pureté.
Voilà, je parlais de ça. Le domaine Trappé s'est mis à remettre des échalas, donc à enlever le palissage et des filets de fer, etc. Donc le père Trappé, le grand-père, pas très content, parce que bon, mais là on remonte aux moines, hein, et c'est un travail fou, ça coûte très cher, et c'est beaucoup de travail. Et à un moment donné, Jean-Louis me dit, tu sais, il y a 25 ans, il y a un type qui est venu nous raconter un truc, comme quoi, quand les vignes étaient palissées dans des fils de fer, le vigneron ne voyait que des lignes, des rangs de vignes, un champ de vignes, etc. Mais qu'il ne vivait pas chaque cep comme un sujet propre, unique et unique. Et il dit, quand on a commencé, la première fois qu'on est rentré dans la parcelle que nos enfants avaient préparée comme ça, on s'est rendu compte déjà que la parcelle était libérée. Et surtout, d'un seul coup, quand on travaillait chaque cep, on avait une relation à chaque cep. Donc on n'avait plus le même regard, puisqu'il n'y avait plus ces fils de fer qui faisaient un rang de végétation. Et il me dit, c'est toi qui es venu nous raconter ça il y a 25 ans dans une conférence et on t'a pris pour un sacré fou à l'époque. Voilà. Oh. Mais je pense que ça, c'est des choses, si vous voulez, c'est là où on voit que ces gens-là, si vous voulez, ils sont happés par leur terre. Et donc, ils font des grands vins.
Aubert de Vilaine, dont vous parliez, copropriétaire et gérant de la Romanée Conti, donc en Bourgogne, on peut dire le domaine le plus prestigieux au monde.
Je pense.
Enfin, voilà. Dit de vous, Bruno Queniau a une façon d'envisager le rapport avec le vin qui est très proche de la mienne. Je fais du vin, donc je sais combien le lieu est important, je sais combien le matériel végétal est important et combien est importante la philosophie que l'on y associe. Bruno, qui ne fait pas de vin lui-même, comprend complètement ce mariage, le mariage alchimique. On n'est pas totalement dans l'alchimie, mais il y a quand même toute une partie qui est mystérieuse, qui est laconique. Dans ce mariage-là, le vin doit l'exprimer. Donc, on a le matériel végétal, on a le terroir, et puis on a ce supplément d'âme, la philosophie, le rapport de l'homme à cette production.
L'histoire d'un lieu, aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte du tout. Et pourtant, dans chaque vin, elle résonne. Dans chaque vin respecté, évidemment, quand le vigneron a respecté sa terre. Mais frère Jean dit l'ego ternit l'œuvre.
Frère Jean, j'ai toujours l'impression d'être dans Robin des Bois. Mais...
Voilà. Oui. Il lui ressemble pas, mais
il pourrait. Il y a du fer à l'intérieur.
Il dit l'ego ternit l'œuvre.
Il bastonne pas mal. En
l'effacement libère la lumière. On ne peut pas faire des vins lumineux en pensant à la note qu'on va avoir par le dégustateur. C'est pas possible. C'est comme si un peintre était en train de peindre un paysage et il est en train de penser aux critiques de sa peinture qui vont regarder. C'est pas possible, il va corrompre le paysage. C'est impossible. Donc, c'est là où il y a, je pense, un grand basculement qui va se faire.
Est-il déjà en train de se produire? Parce que vous parlez aussi des années par cœur. Enfin, on a tendance à résumer ça par les années par cœur, où l'obsession, c'était d'avoir une note dans ce guide-là ou d'autres guides. Et on a l'impression que c'est un petit peu derrière nous, cette histoire.
Alors, par cœur, c'est la mode d'air par cœur, elle est derrière nous. Il y a d'autres modes qui apparaissent, on les voit. Il y a des vins aujourd'hui qui sont... on uniformise autrement. On peut uniformiser par une autre médiocrité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des vins qui ont des défauts majeur sur le plan organoleptique.
La fameuse mode du naturel.
Et qui sont très, très consommés. Et donc, du coup...
Certains vins nature.
Voilà. Certains vins nature.
Ouais. Oui, mais encore une fois, non, mais le pire, c'est qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas prononcer le mot, parce qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de cahier des charges.
Il y en a un depuis quelques mois, il y a un... Mais,
il n'est pas encore appliqué pour les millésimes existants.
Je pense.
Il est tellement léger, le cahier des charges. Nous, moi, j'ai combattu pour qu'il soit beaucoup plus, justement,
sévère. C'est étonnant qu'il ait été...
Évidemment, parce que ça arrange tout le monde, quand même. Il faut voir les débats qu'il y a eu. Donc encore une fois, c'est moi je suis contre les labels, très franchement. Hein. Pourtant, les gens disent mais toi t'as défendu le bio depuis des années. Non, pas le bio. J'ai défendu un retour à des pratiques saines. Mais
en fait, le bio ça va sans dire quand on vous lit.
Le bio ça va sans dire. Maintenant,
c'est pas la peine d'apporter, d'apposer
maintenant,
un.
Non, est-ce qu'un domaine comme Romane et Conti, vous pensez qu'il s'occupe du cahier des charges bio?
Mais ils sont en biodynamie.
Il est tellement. Mais non, mais même la biodynamie. Mais ils sont au-dessus, ces gens-là. Ils sont au-dessus. Le travail effectué par des gens...
Ils parlent à chaque cèpe le matin quand ils se lèvent. Donc, ils sont au-dessus de la divinité.
Non. Le cèpe leur parle. Parce que si tu parles à ton cèpe, c'est l'ego.
Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, des labels, parce que j'ai créé avec mon épouse, avec plusieurs personnes, la première Biocop en 90 dans l'Essonne. Hein, donc, mais j'ai vu les dérives du label. Les dérives du label, c'est quoi? C'est que les gens, ils passent du supermarché où avant, il y a la marque qui s'impose et disent, j'ai des biscuits lus, je suis tranquille, c'est une bonne marque. Le lendemain, il passe au bio, ça y est, je suis tranquille. Mais on a des antennes, on est des chasseurs-cueilleurs. On doit rester vigilant et donc on ne doit pas. Et le label est en train, si vous voulez, de masquer encore une fois, de plus, nous rendre encore dépendants. Mais ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on enseigne aux clients, c'est d'être capable de percevoir lui-même et de dire, ça beau être bio, je ne bois pas. Et ça,
Bien sûr, ce que tu prônes, c'est de dépasser ce besoin de label.
Ça. Et c'est là on sera avancé.
Voilà. En l'absence de label, je préfère quand même un label qui me rassure sur le fait que le vin
a été élevé proprement.
Évidemment. Que l'absence de label qui certes
mais un
me
jour,
laisse
ton
moi
corps,
face
hein.
à ma propre vibration en face du vin, mais qui peut-être me vend à un prix indécent quelque chose qui a été bourré de chimie. Donc je pense que quand même dans la codification, encore un gros mot.
Mais un jour ton corps te dira que ce vin est bon.
Avec
ou sans label.
Non. Moi, je lâche. Si il est bourré de chimie.
Non, parce que tu auras écouté ton corps et tu auras écouté le vin et tu auras écouté Bruno.
Je pense que tu n'écoutes pas trop ce que je dis, par contre. Et c'est que le label, il a une fonction quand même qui est de rassurer et qui est de donner quelques clés d'entrée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre, elle est chaotique et que les labels, je ne veux pas les défendre a priori, mais c'est un peu comme les appellations. C'est-à-dire que ça permet quand même de codifier un peu, de permettre aux consommateurs de s'y retrouver. Et un label bio, au moins, ça me donne une information. La vigne est conduite de la façon dont moi, j'aimerais que toutes les vignes soient conduites. Après, ma connaissance un tout petit peu du vin me dit « celui-là n'a pas le label bio » ou le caviste, en bon libraire, me dit « ça, il n'y a pas le label, mais vous pouvez y aller, c'est fait sérieusement, proprement, dans le respect du terroir et tout ça ». Quand on n'a pas ces clés-là, parfois le label, il est utile quand même.
Non, mais ce sont des passages qui ont été un peu obligés par rapport à ce qui s'est passé dans les années...
C'est la massification du marché aussi.
Mais rien ne remplacera le retrouvaille de nos antennes, de notre chasseur-cueilleur. On a des capacités immenses. Dès que vous allez percevoir la vibration dans un vin, vous saurez qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Quand vous percevez la lumière de la matière qui jaillit en vous, ça, il n'y a plus de problème, si vous voulez. Donc, ça dépasse de très, très loin. Et le bio, la biodynamie, ça arrête avant. Il y a un journaliste qui m'a dit, après avoir lu mon livre, « Mais tu n'as pas fait l'éloge de la biodynamie, etc. » Mais j'ai dit, mais la biodynamie...
C'est pas votre propos, on le voilà. comprend très bien en lisant
la, la définition du vin, la biodynamie, c'est tout petit à côté de la définition du vin. On parlera dans 200 ans des moines de Cîteaux et de Cluny, on parlera plus de Steiner, parce que on est dans une dimension, il faut voir, parce qu'on ne sait pas ce que les moines de Cluny et de Cîteaux ont fait. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai fait des recherches sur leur connaissance alchimique, sur les métaphysiciens de l'époque, tout ce qu'ils ont fait pour comprendre cette genèse et cette élévation de la matière sur des niveaux très élevés pour transcender l'homme, mais, et sur le changement d'ivresse avec l'Antiquité, parce qu'il y a un changement d'ivresse. On va avoir une ivresse sans l'ivresse vulgaire à partir de l'Empire chrétien, parce que c'est le sang du Christ, donc on ne peut pas avoir l'ivresse vulgaire avec le sang du Christ, alors qu'avant, chez les Romains, chez les Grecs, c'est mélangé, l'ivresse spirituelle, l'ivresse vulgaire, tout ça c'est mélangé. Et donc,
l'ivresse politique.
Il va falloir trouver des vins. Voilà.
On fait boire les gens pour décider.
Voilà. Oui, exact.
Exactement. Et donc là, on va aller chercher un vin qui est bien au-delà. On va aller chercher quelque chose de très très élevé.
Et heureusement, parce que le cahier des charges du label bio dont parle Romain, malheureusement, est encore très très peu contraignant. Il est lissé au niveau de l'Europe et ça ne peut pas suffire. Alors évidemment que c'est un moindre mal et qu'on serait tous contents que les 85% des vins achetés, notamment en grande surface, parce que tu le rappelais que les cavistes, par exemple, c'est 5% seulement des achats à ce jour. Mais le label bio, il ne peut pas suffire quand on sait combien d'intrants sont encore permis et les taux de sulfure qui sont permis en bio, bon, bah, on peut pas prendre ce label au sérieux. Après,
le label bio.
Je trouve qu'il devrait pas y avoir un label qui dit attention, moi je suis labellisé, je mais ne oui, mets voilà. pas dans mon vin. Il devrait y avoir une étiquette sur laquelle le gars il dit ah ben moi j'ai fait tel traitement, j'ai fait celui-là.
C'est ça qu'on devrait de avoir.
Parce qu'au lieu de chercher désespérément quelque chose où il y a pas, on devrait pouvoir voir hein, puisque la personne doit être informée parce
Quand tu vas
chez ton caviste, c'est lui qui te raconte l'histoire. Hein. Donc, tu attends une histoire de la part quand tu vas chez ton caviste ou dans ton bar à vin. Et je l'espère, quand tu vas dans le restaurant, pas forcément le sommelier, même le serveur, quoi. Mmh. Il doit connaître un petit peu comment son vin qu'il a choisi, qu'il a acheté, comment il est fait, par qui il est fait. Donc, cette personne te raconte une histoire. Mais c'est vrai que si... Bon, c'est pas mon avis, mais si tu vas faire tes courses en GD, si t'as besoin de quelque chose pour te repérer, tu devrais pas avoir besoin de te repérer à une petite feuille qui dit que c'est Déméter ou un abbé qui te dit que c'est biologique et qui te dit, t'inquiète pas, il y aura pas dedans. Tu devrais pouvoir te repérer, tu tournes ta bouteille, et tu regardes à la liste des ingrédients. Et il devrait y avoir la liste de ce qu'on a fait comme traitement.
Il y en a qui vont utiliser le vin Magnum parce que la contre-étiquette sera trop longue.
Merci Bruno Queux. C'était vraiment une conversation passionnante. Malheureusement, on va s'arrêter parce qu'on pourrait parler des heures.
Sinon, la TerraBar va changer de format.
On va peut-être continuer, mais c'est ça. C'est que nous aussi, on va changer de format. On va dépasser les temps habituels, ce qu'on a déjà fait, mais c'est pas grave. On s'autorise aussi cette liberté. En tout cas, c'était...
Ça fait 3 mois qu'on n'a pas pu parler.
Oui, c'est ça. On sent bien qu'il y a une frustration.
On en avait gros.
Immense. Et que, voilà. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on ait fait cette rentrée avec vous. Et puis, merci pour ce vin grec assyrtiko.
Qui porte bien son nom.
Dont la cuvée s'appelle Pure, P-U-R-E. On le trouve à Filovino.
Ah oui, bien sûr. Et on en boit même.
Vous pouvez nous dire, c'est une petite habitude qu'on a aussi, le prix de la bouteille.
Oui, c'est une bouteille qui est aux alentours, un peu en dessous de 40 euros.
Quand même, d'accord. Ok. Mais c'est, ça les vaut. Enfin, c'est quand même, en termes d'émotion, assez...
Puis le nombre de bouteilles produites par an, je pense.
Assez bluffant.
Assez minuscule. Hein. C'est à peu près... c'est moins de 5 000 bouteilles.
Voilà. Moins que la Romaine et Conti.
Voilà.
On se sent absolument privilégié d'avoir pu déguster ce vin en votre compagnie. Et j'invite chacun.
Et puis lire le livre, parce que. Il permet de changer un petit peu de paradigme et d'ouvrir de nouveaux horizons. Intérieur.
Absolument. Il y a beaucoup de livres très intéressants sur le vin, mais celui-là, je le trouve à part, avec un discours, un angle, une façon d'aborder les choses qui est vraiment différente, qui oblige à une gymnastique intellectuelle, qui oblige à ouvrir un petit peu les chakras. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est vrai que c'est un livre qui interpelle La vie mystérieuse du vin de Bruno Queux au Cherche Midi. « merci à chacun de vous. On se retrouve dans quelques jours, quelques semaines, pour un prochain épisode, puisque ça y est, là, on est reparti. On est reparti pour des vraies productions de La Terre à Boire après ce long silence. Au revoir, Florence.
Au revoir.
Au revoir, Patrice.
À bientôt.
Au revoir, Marie.
À bientôt.
Et donc, au revoir, Bruno Queneau.
Au revoir à tous.
Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.